France Musique.
Musique et moi.
Daniel Laferrière.
Priscille Lafitte. France Musique.
Ça fait une trentaine de fois depuis le début de cette semaine que j'écoute ça. Ça, c'est une passe de Parker. Le visage de Booba, tendu comme un mât de misaine, écoute aussi. On entendrait facilement voler une tsetse, Saint Parker des Enfers prier pour nous. J'écoute de mon mieux. Booba boit littéralement chaque note rauque qui sort du sax de Parker. Juste au milieu de la grande passe, Booba Dixit, exactement au moment où le vieux Parker 1920-1955 allait attaquer ses précieuses secondes, 128 mesures qui ont révolutionné le jazz, l'amour, la mort et toute notre foutue sensibilité, juste à ce moment, le ciel choisit de déferler sur nos têtes sous le mode brutal d'un baisage à fond de train, zébré de hurlements stridents, de cris de bêtes blessées, d'arrachements, les tripes dans une cavalcade de chevaux rétifs, juste là, au-dessus de nos têtes. La table tournante tressaute comme une rainette aux doigts adhésifs. Parker a juste le temps de jouer Cool Blues. Et après, ce petit monstre d'invention de folie sonore Coco 1946. La seule pièce musicale à pouvoir faire face à cette démence qui nous tombe du ciel. Le plafond descend d'un millimètre dans un nuage de poussière rose. Soudain, rien. On attend avec impatience, en haleine, la fin du monde. L'apocalypse privée, sur mesure, silence. Puis ce cri tendu, en contrute, aigu, soutenu, inhumain, tantôt allegro, tantôt andante, tantôt pianissimo, cri interminable, inconsolable, électronique, asexué, sur fond de jazz Parker. Unique chant de cette aube.
Thank you.
venons de voir chaque note qui sort du sax de Charlie Parker. Bonjour, Dany Laferrière.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi. Merci d'ouvrir cette nouvelle saison sur France Musique. Vous êtes écrivain, né à Port-au-Prince, Haïti. Vous résidez quelque part entre Paris, Montréal et Port-au-Prince.
Et ailleurs. Et parce que je réside aussi dans ma tête. Comme lecteur, je réside à Buenos Aires, puisqu'il vivait... Et Jorge Luis Borges, qui est mon écrivain préféré, ou encore dans d'autres lieux.
Et puis vous avez atteint l'immortalité, j'espère que vous en profitez, depuis 2015 en étant élu à l'Académie française. Et votre premier grand succès, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, est adoubé désormais comme un classique de la littérature, avec une réédition par la maison VLB à Montréal. Nous allons le relire avec la sono branchée, en enchaînant les disques sur la platine, parce qu'il y a beaucoup question de jazz dans ce roman qui date de 1985 et dont vous nous avez fait la lecture en tout début d'émission. Nous allons donc revenir aux sources, nous abreuver de musique, entendre la pulsation et les mouvements de votre écriture, Dany Laferrière. Nous écouterons du jazz, bien sûr, le murmure et le fracas du monde aussi, de Port-au-Prince à Montréal, en passant par New York et Paris. Ce voyage dans vos émois musicaux débute sur l'île d'Haïti.
Thank you.
Enregistrement de Rara, qui date du milieu des années 70, donc sur l'île d'Haïti. Ce morceau s'appelle Vapeur. Ça se danse, Daniela Ferrière? Je vous voyais dodeliner de la tête, danser des épaules.
Oui, mais ça se danse, c'est toujours un mouvement. Généralement, ça n'a pas de nom. On entend le Rara, ça s'appelle Rara en général. Et déjà, en nommant ce morceau, on le rend... et plus commercial, et on sort de ce côté complètement populaire, complètement offrande. Et j'ai écouté ça quand j'étais enfant. Je me souviens d'une des premières fois où j'ai entendu ça. J'étais à Petit Gouave, dans la ville où j'ai passé mon enfance. J'ai entendu cette musique qui se jouait par des paysans qui descendaient la montagne. Petit Gouave est entouré de montagnes, et ils passaient la nuit comme ça à marcher, à courir dans la ville et à jouer de la musique afin de remonter et dans les montagnes.
Donc c'est une musique de nuit.
C'est une musique de nuit, je crois. On peut jouer ça l'après-midi. La Port-au-Prince a un peu rendu cette musique son aspect urbain. C'est une musique de paysan à l'origine, et c'est une musique plutôt de nuit. Enfin, du moins quand je l'écoutais. Et c'est une musique qui se joue presque en marchant ou en courant. Enfin, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas un concert. Ça, c'est sûr, et ça peut jouer dans des endroits un peu à destination légèrement mystique, mais c'est vraiment pour bouger, pour danser, pour fêter, pour faire bouger le corps.
Donc vous, petit Daniela Ferrière, descendiez de l'appartement et alliez voir ce qui se passait ?
Aller dans la rue, aller voir ce qui se passait, et je suivais les gens, comme font tous les enfants qui sont intrigués, mais ma grand-mère ne savait pas que j'étais dehors, et moi-même, je ne savais pas où j'étais. Et la musique m'avait emporté, entraîné, et je suivais le groupe jusqu'à l'aube à peu près, au moment où il remontait. Et dans les montagnes, d'ailleurs, c'est l'un des grands regrets de ma vie, j'aurais dû continuer.
Vous n'êtes jamais monté avec eux sur la montagne ?
Non, je suis jamais monté, j'aurais dû le faire et ne plus revenir. C'est le rêve de tous les enfants, partir sans revenir.
Thank you.
Il y a comme un répond hein, entre le rara qu'on entendait un peu plus tôt et cette partition de Ludovic Lamotte qui se nomme Loco. Cette composition figure dans un cycle intitulé Icônes vaudouesques. C'est donc un compositeur, Ludovic Lamotte, qui a redécouvert la pianiste Célimène Daudet. Je crois que c'est l'école de musique Sainte-Trinité de Port-au-Prince qui lui a fait cadeau de cette partition et qu'elle s'est mise à jouer. Vous aviez connaissance, vous, de ce type de partition, de ce type de compositeur comme Ludovic Lamotte, qu'on surnommait le Chopin noir?
Oui, bien sûr, et tout le monde connaît en Haïti le nom, tout au moins, mais on connaît aussi un peu la musique de Ludovic Lamotte et de son vis-à-vis et alter ego Justin Ellie. Et oui, ces deux-là sont des classiques. Et là, on a une musique proche de rara, mais en même temps plus proche du vaudou, plus proche d'une cérémonie vaudou. Et d'ailleurs, Loco, c'est un dieu ou un demi-dieu. On dit papa Loco. Papa Loco. Donc, un papa, c'est presque l'étage juste en dessous de Dieu. Mais c'est un dieu aussi parce qu'on dit papa Legba. Et Legba est un dieu. Et c'est le premier dieu qui ouvre la barrière pour faire entrer les dieux à une cérémonie vaudou. Donc, Loco, c'est un dieu, papa Loco. Et Ludovic Lamotte a bien mis. Et surtout, Célimène Daudet, que j'avais rencontré par hasard. J'étais en train de souper et boulevard Saint-Germain, et quand une jeune femme s'est approchée de moi, timidement, et m'a parlé. Je ne l'avais pas reconnue, parce que je ne la connaissais pas, mais je connaissais bien son piano, et tout coloré, qu'elle avait offert à Haïti, et sous le prétexte bienfaisant de « on doit donner que ce qu'on a de meilleur », magnifique piano, et malgré la situation politique et en même temps aussi des poussières qu'il y a dans cette ville de Port-au-Prince, et au lieu de faire comme tout le monde, comme beaucoup de gens, de donner ce qui est moins bien, et parce que ça pourrait se détériorer, elle a voulu donner un vrai beau piano de concert, et ça m'avait touché. Donc, je connaissais bien son piano.
Elle est venue vous voir, pourquoi? Pour quelle raison? Elle voulait...
Elle me connaissait. Elle avait lu des choses que j'avais écrites. Je suis beaucoup plus âgé qu'elle. Et donc, je suppose qu'elle a été très sensible à ses origines haïtiennes. Parce que Daudet, c'est plutôt d'Alphonse Daudet, et qui est de sa parenté, mais je ne suis pas sûr que Célimène, qui est la fille de Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne, dont c'est un aura qu'on rencontre souvent dans la paysannerie haïtienne, Célimène, et je ne suis pas sûr que c'est de cette Célimène qu'il s'agit, mais c'est un nom que les Haïtiens reconnaîtraient facilement, quelqu'un qui se prénomme Célimène. C'est un joli nom paysan, et qui est dans l'histoire des noms haïtiens.
Et dans ce même album, elle a enregistré également une composition de Justin Ellie.
Thank you.
C'est une composition sur une mélodie populaire de Justin Elie. Justin Elie, un des compositeurs réhabilités, redécouverts par la pianiste Célimène Daudet, avec laquelle vous avez aussi un projet de lecture et un récital, c'est ça?
Absolument. Elle fera la musique haïtienne. Je dirais des poètes haïtiens qui sont tout aussi magnifiques. Ouais. Et je crois que ce devrait être à la soufflerie, mais ça a été interrompu.
Vous me disiez un peu plus tôt que vous aviez conscience de l'existence de ces compositeurs haïtiens. De quelle façon est-ce qu'ils parvenaient jusqu'à vous? C'était juste une...
Ça fait partie de la culture haïtienne de connaître ça. On finit par entendre beaucoup de choses. Je ne suis pas une oreille qui cherche la musique. La musique m'arrive, m'habite ou passe comme un courant d'air.
Mais il faut dire que vous avez grandi sous le régime de François Duvalier, qui était un grand mélomane. Lui qui a régné sans partage sur Haïti dans les années 50 et 60, qui avait les mains couvertes du sang de ses opposants, était donc un grand amateur de musique, mais paradoxalement, il n'avait pas du tout favorisé l'éclosion de compositeurs ou de musiciens dans le pays. Il n'avait pas financé le conservatoire. Il avait donc un rapport...
Tous ses plaisirs sont personnels, c'est-à-dire il pouvait écouter de la musique, il avait sûrement les disques qu'il fallait, et il les écoutait, il n'avait pas pensé que le peuple, que les gens pourraient avoir plaisir à reprendre ces musiques-là, que ce soit Mozart, Beethoven ou Strauss, et il n'avait pas conscience de cela, ça coûtait pas cher du tout de faire un orchestre, une école, mais ça ne lui était pas venu à l'esprit, il se contentait lui-même de son propre plaisir. C'est ce qu'on appelle n'avoir pas une conscience de chef d'État.
Mais ce rapport qu'avait François Duvalier à la musique induit aussi votre approche à vous. C'est-à-dire qu'enfant, pour vous, la musique classique, c'est la musique de Duvalier.
C'est un cauchemar, une torture. Et parce que chaque fois qu'il y a des rafles, chaque fois qu'il y a des situations exceptionnelles où le gouvernement doit sévir massivement, aveuglément surtout, et pour imprégner la terreur dans l'esprit des gens, brusquement, au milieu d'une meringue, d'un rara ou d'un discours un peu fleuri, et il y a un silence, comme si le cœur du pays s'était arrêté, une sorte de bruit sec, comme ça. Et après un long silence qui peut durer, pour moi, une heure, on commence à entendre de la musique classique. Ça veut dire que le pays est en situation d'arrêt et ça veut dire qu'il se passe quelque chose de terrible, le gouvernement va sévir. Donc la musique classique, que ce soit Mozart ou Beethoven ou toute autre chose, était reliée à ce moment de terreur. Alors chaque fois qu'on entendait cette musique qui reprenait, qu'on avait l'impression que c'était tout simplement une panne de la radio et qu'on avait conscience que c'était tout simplement le début d'un moment tragique qui commençait, eh bien on entendait Mozart. Et là, il y a un mouvement dans la maison, je vois ma mère un peu égarée qui cherche partout, je ne sais quoi, c'est-à-dire s'il n'y a pas une photo de Karl Marx, ou je ne sais pas où est-ce qu'elle trouverait une photo de Karl Marx chez elle, mais s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait, si la police débarque, nous mettre en situation difficile, un livre où il y a le mot communisme, ou le nom d'un opposant, ou une photo avec mon père d'un opposant, nos trois. Donc il faut carrément blanchir la maison, enlever tout ce qui fait tache. Et donc j'ai relié dans mon inconscient la musique classique avec ce moment de panique.
Daniela Ferrière, pour vous, ce Requiem de Mozart, c'est donc la musique de Duvalier. C'est la musique aussi où vous craignez que votre père, qui était opposant, disparaisse.
Ma mère, parce que mon père est parti, j'étais très jeune, je craignais que tous les opposants disparaissent. Et cette musique ne vient pas forcément de Duvalier lui-même. Je crois que c'était les organisateurs, les gens de la radio, qui voulaient passer une musique dont on ne pouvait en aucun cas les soupçonner d'accointance avec quelle que soit la situation. Quelque chose qui serait hors du temps de Duvalier. Parce que n'importe quelle musique et ou n'importe quel discours, n'importe quel commentaire pouvait être mal interprété par les nombreux tontons Macoutes ou sbires du régime qui sont là un peu partout, qui écoutent tout et qui voulaient faire du zèle. Il fallait en aucun cas un opposant de Duvalier dans les rues et presque pieds nus ou enfin avec des chaussures poussiéreuses et pouvait concevoir que Mozart faisait partie de la propagande anti-Duvalier. Mais d'une certaine manière, Mozart est devenu, disons, une forme de propagande de Duvalier pour semer la terreur. Donc on ne peut pas dire exactement c'est Duvalier qui a dit « passez-moi cette musique » parce qu'il y a des choses spontanées et pour sortir du pays et ne pas être, disons, accusé de rapports secrets avec l'opposition.
Donc c'est une forme de mise en scène macabre.
C'est une mise en scène très macabre, d'autant plus que cette musique que j'entends peut-être l'une des premières fois, et pour elle-même, qui se retrouve être une musique extraordinaire de ce jeune homme plein de talent qu'est Mozart, et j'entends ça avec un grand plaisir, un immense plaisir, et faire de cette musique qu'on puisse garder en soi des images si funèbres, ce sont des vêpres, comme on dit, comme il y a eu lieu dans la partie ouest, dans le sud-ouest du pays, à Jérémie, où on a tué presque un grand nombre de gens en une seule nuit et arrêté des arrestations massives comme ça. Donc ça crée des souvenirs douloureux.
Ce dies irae, tiré du Requiem de Verdi, cette fois, était messager de la mort et de la terreur. C'est une utilisation politique terrible, à la fois de la musique et du médium radio. Ça vous a donc éloigné, vous, j'imagine, Daniela Ferrière, de la musique classique comme plaisir.
C'est un choc, je sais bien ce qu'elle veut dire dans la grammaire de la dictature. Et il faut dire que tous les Haïtiens ne vous diront pas spontanément que Duvalier a utilisé cette musique. Mais tous ceux qui ont vécu cette époque se rappelleront, en nous écoutant là, qu'il y a toujours eu une musique classique, mais c'est vrai, brusquement, toutes les radios les plus populaires jouaient de la musique classique, pas toujours de manière aussi terrifiante. Et chacun trouve le disque classique qu'il peut trouver, et il faisait pas le choix, il peut jouer des préludes, enfin des choses beaucoup plus légères, mais il se trouve que la musique classique était reliée. C'est intéressant comment notre mémoire peut réactiver la mémoire des autres. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire à ce moment-là, mais je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai, il y a un lien. Et il y a peut-être un lien dans mon aversion de la musique classique face à cela. Je ne sais pas si ça fait une aversion, disons générale, collective, mais ça réactive une mémoire terrifiée.
À la radio haïtienne, il y avait également du jazz.
Oui, il y avait du jazz. Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait et parfois.
Et c'est grâce à une émission La Nuit que vous avez découvert Miles Davis, je crois. Mm-hmm. C'est l'étrangeté de la nuit, le mystère de minuit, Round Midnight, le spleen des heures sombres. Composition de Thelonious Monk. Miles Davis est diffusé à la radio haïtienne la nuit.
Enfin, pas un de mes amis qui est mort aujourd'hui, il s'appelait Ezekiel Abelard, on avait le même âge, on était très jeunes. Il avait cette émission de nuit à Radio Métropole, une émission de jazz qui est devenue une émission Miles Davis, parce qu'il ne passait que Miles Davis. Et quand je lui expliquais, bon, Ezekiel, tu sais que les gens aiment Miles Davis, mais ils n'ont pas envie d'entendre toute la nuit Miles Davis. Il m'a dit, mais moi, je leur demande pas de rester éveillé pour m'écouter non plus. Si je ne peux pas passer ma musique, j'ai dit, mais c'est pas ton émission, c'est leur émission. Ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que c'est trop subtil pour lui, c'est son émission. Il passe qu'il veut entendre. Il ne passe pas qui vous voulez entendre. Miles Davis n'est pas loin non plus. Il a ce côté, quelque chose comme ça, il est tellement rapide que je le mets dans la série des musiciens et qui n'aiment pas, qui dit toujours, etc. Il n'aime pas continuer la phrase, il n'aime pas aller jusqu'au bout. Et tandis que Coltrane, on le mettrait plutôt dans la série des c'est-à-dire. Et c'est des gens qui disent la chose et qui redisent la chose après le c'est-à-dire. Et je crois qu'il y a deux formes comme ça.
Oui, ça rejoint un petit peu aussi votre forme d'écriture et la façon dont vous maniez les dialogues. Je crois que c'est quelque chose sur laquelle vous avez réfléchi. Qu'est-ce qui fait un bon dialogue? Quand est-ce qu'on en dit trop? Quand est-ce qu'on ne dit pas assez? Et Miles Davis est très instructif de ce point de vue-là.
C'est ça, tout simplement. C'est tout ce qu'on ne dit pas entre les deux phrases.
Donc Miles Davis a aussi son message politique. Est-ce qu'on peut écouter ensemble Mano Charlemagne? Qui est-il pour vous?
Ah, c'est important, c'est un ami, et jusqu'à sa mort, et il a vécu en exil aussi, je l'ai connu à Montréal, je l'avais connu à Port-au-Prince, il a changé la musique contemporaine, un peu troubadour, un peu d'engagement. Je me souviens d'ailleurs, quand il a eu des problèmes, il a été arrêté, Jonathan Demme, qui voulait faire un film sur lui, avait demandé à ses amis, et on n'avait jamais vu ensemble sur une feuille de protestation Woody Allen et Bob Dylan, qui avaient protesté pour qu'il soit mis hors de prison. Et donc, c'est quelqu'un qui est là comme ça, tout simple, et qui est devenu un des grands musiciens de notre époque, de notre génération, et de la langue française et créole.
Quand les princes du port gardent en main le sort, ami, de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criait dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île.
Le mal du pays, par Mano Charlemagne. Vous aussi, vous avez écrit sur l'exil, d'ailleurs, Daniela Ferrière. Vous venez publier un tome d'écrits manuscrits, de dessins aussi, qui s'intitule « L'exil vaut le voyage ». C'est publié chez Grasset.
Oui, oui, mais j'ai un exil différent de celui de Mano Chalmaille. Je dois dire qu'il est encore plus dense en créole. Et il a une diction particulière. Quand il parle, naturellement, on comprend pas trop bien parce que les mots se bousculent dans sa bouche, dans sa tête, dans son cœur. Mais dès qu'il se met à chanter, il y a comme un ralentissement et qui se fait et sa diction change. Et terriblement, il fait partie de ces gens où la chanson, la diction a une place importante, comme chez Jacques Brel. C'était des fois en créole, on l'entend vraiment, il donne une diction particulière à la langue et créole. L'exil de Charlemagne, c'est un exil douloureux. Je l'ai connu à Montréal, exilé, et il voulait rentrer, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'il attendait, même si c'est la mort. Alors que mon exil est un exil où je découvre les choses, et même j'ai dû changer la notion même du mot exil. Pour moi, l'exil, c'est pas moi ni ma situation, puisque je découvre tant de choses nouvelles. L'exilé, c'est Duvalier qui est obligé de rester au palais, qui a peur de tout le monde, qui a peur d'un coup d'État dans son dos, qui a peur et de la vie, quoi. Il est exilé de la vie, littéralement. Et moi, j'étais appelé, happé, et par le reste du monde. Il a gardé son palais et il m'a donné, en m'exilant, le reste du monde.
Comment avez-vous atterri à Montréal?
Comment j'ai atterri? Ouais. Eh bien, j'ai dû partir. Quelqu'un m'a envoyé un billet d'avion pour me sauver d'une situation difficile après la mort d'un de mes amis, qui était un ami aussi d'Ezekiel Abélard, l'homme de Miles Davis. Et on était trois. Et Abélard était arrêté. Lui, il a été tué, Gaston Raymond. Et puis, il fallait que je quitte le pays et je suis allé à Montréal. Vous savez, un exilé ne choisit pas. Et j'ai trouvé un pays magnifique. Où je me suis installé.
Les hélices, Astro Jet, Whisper Jet, Clippers Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors, je suis parti. Québec, France, World, Nord-East, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais j'ai pu où j'suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les ponts, nos esquimaux bronzés, qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours ma Sophie, qui venait de partir. Sur Québec Air, France, World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais, j'ai pu, où j'suis. Rendu, il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument très salissant. Alors j'y parti sur Québec Air, France, World, Nord, East, Eastern, Western, les Pan-American. Mais j'ai pu, rendu. Ma Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, j'suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, France, World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais j'ai bu. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey. Sur Québec Air, Transworld, Nord, East, Eastern, Western, Pipan American.
Lindbergh, de Robert Charlebois.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'écrivain Dany Laferrière est l'invité de Musique et moi. C'est donc la bande-son de votre arrivée à Montréal, cette musique de Charlebois, cette chanson?
Ah oui, tout à fait. Et en 2 minutes à peine, il raconte toute l'histoire du Québec sur un ton tellement moderne, tellement vif. Quand il parle de Duplessis, il faut voir le premier ministre qui a été à la chevauchée entre la grande noirceur et au cœur même de la grande noirceur, l'époque où l'Église avait mis sa main mise et sur le Québec, mais en même temps aussi le début du nationalisme maître chez nous, la maîtrise économique et du pays que les francophones devaient avoir sur leur pays pour un peu se débarrasser de cette emprise anglo-saxonne et sur le pays. Il y a la Révolution tranquille et qui l'a fait dans les années 1960, en juillet 1960, je crois, et avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, le Sage, et on va entendre ce mot « désormais », c'est-à-dire « désormais, l'école va remplacer l'Église ». Et tout cela dit sur un mouvement, et une sorte de va-et-vient, presque de hamac, avec une fantaisie burlesque, presque, et on comprend rien, et en même temps aussi toute l'emprise de cette nord-américanité par des compagnies américaines, québécoises, Translair, enfin des compagnies d'aviation où l'on vole comme ça de manière commercialisée. Et donc c'est intéressant d'entendre ce petit composé et tout cela dans un ton comme ça, où l'on se demande à la fin, je sais plus où je suis rendu, c'est-à-dire le Québec ne sait plus, durant cette grande secousse de la Révolution tranquille où il se trouve, et en même temps c'est de la bonne musique.
Oui. À quoi est-ce que vous êtes sensible musicalement lorsque vous arrivez au Québec?
Ah, c'était plutôt à l'autre grand, enfin le grand, c'est-à-dire Gilles Vigneault. Et pour moi, d'ailleurs, je dis une chose qui fait toujours plaisir et déplaisir, mais qui fait rire Vigneault. Et les deux grands musiciens, grands chanteurs d'Amérique du Nord ne savent pas chanter. C'est Bob Dylan et Gilles Vigneault. Oui, mais c'est vrai. Et parce qu'ils ont créé quelque chose de neuf. Une force poétique qui s'impose. Et qui s'impose une vision, une façon de regarder le monde. Et puis à un moment donné, et on ne juge pas en les entendant. Et ça fait rire Vigneault. Il est tout content aussi d'être à côté de Dylan. Et Dylan doit être sûrement... Enfin, il aurait intérêt à être heureux d'être à côté de Vigneault.
Est-ce que je crois aussi que la petite graine de jazz qui avait été plantée en vous à Port-au-Prince grandit?
Oui, ça grandit. Thank you.
Nous voilà embarqués dans la caravane de Duke Ellington, aux côtés d'Oscar Peterson et de Dizzy Gillespie, qui sont lancés dans une joute d'éloquence, une joute de virtuosité. Vous avez croisé Dizzy Gillespie, c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. J'ai pas croisé Oscar Peterson, même si c'est le grand héros de Montréal, et d'autant plus qu'il vient de quartiers extrêmement populaires, qui étaient très pauvres à l'époque, au coin même des deux quartiers les plus pauvres, la Petite Bourgogne et Saint-Henri. Et donc, il est un modèle pour tous les jeunes et artistes, peintres, musiciens, et d'autant plus que c'est un homme harmonieux, c'est un homme solaire. Et c'est un homme de joie et de gaieté, grand diffuseur de joie et de fantaisie sonore. Et quant à Dizzy Gillespie, c'est le soir même de mon arrivée à Montréal, et la personne qui m'avait fait venir, et qui est morte cette année d'ailleurs, malheureusement, eh bien, elle m'avait emmené le soir même au Rising Sun, qui est une boîte sur la rue Sainte-Catherine avec un escalier un peu raide à monter, qui est dirigé par Doudourou Boissel, polygame, poète, cuisinier martiniquais, je crois, Doudou Boissel. Eh bien, ce Doudou Boissel recevait dans une salle clairsemée et Nina Simone et Dizzy Gillespie. Parce que ces gens-là, ils venaient chez lui pour jouer, peut-être en avertissant assez tard. Et Doudou ne fait pas de publicité. C'était vraiment la musique pour la musique. Et c'est resté dans ma tête. J'ai mis cette scène au moins dans 3 de mes livres. Je raconte toujours cette histoire d'avoir vu pour la première fois Nina Simone en chair et en os en train de chanter une cigarette à la main droite, un verre de vin à la main gauche. Et c'est comme ça que je voudrais écrire. Et puis Dizzy Gillespie qui me faisait la conversation sur le racisme américain tout à côté. Et je comprenais un peu ce qu'il me disait. Il avait l'air très...
Vous aviez conscience des monuments qui étaient devant vous ?
Je venais d'arriver, c'était mon premier soir. Je trouvais que c'était normal, c'est la moindre des choses. Et j'ai plus revu des pointures comme ça. Mais je croyais que c'était l'abondance et que chaque soir, j'allais rencontrer des gens. J'avais conscience des monuments, mais j'étais pas... comme cela, j'étais pas du tout en Haïti, on n'est pas vraiment dans le sens une vedette, on est excité. Je crois que c'est la proximité des dieux et de la mort et des situations dramatiques les gens qu'on a plutôt conscience de ceux qu'on ne voudrait pas rencontrer, Duvalier, les tontons Macoute, que de ceux qu'on voudrait rencontrer. Pour moi, c'était tout à fait normal et ça allait rester. On est vraiment ancré en soi l'idée d'être des princes. On vient de Port-au-Prince, c'est-à-dire la ville où il n'y a que des princes. Et ma mère m'a toujours dit que j'étais un prince. Alors pour moi, Dizzy Gillespie, oui, c'est normal.
Mais alors de quoi vous parle Dizzy Gillespie ?
De racisme. Et je ne savais pas pourquoi. Et il m'expliquait comment il avait subi le racisme. Et je ne savais même pas d'où venait cette conversation. Et est-ce que c'est de la chanson de Nina Simone qu'on entendait? Et on nous servait à manger. Il y avait Doudou Boissel qui faisait à manger. Il était aussi cuisinier et qui de temps en temps venait parler à ses invités. Il n'y avait pas beaucoup de personnes.
Hein. Est-ce qu'il parle avec la même virtuosité
J'ai pas trop compris ce qu'il disait. Je pense qu'il parle avec une virtuosité, d'une certaine manière. Il saute des phrases. Mais Nina Simone qui chantait, parce que j'écoutais d'une oreille des Gillespie et de l'autre, je l'accordais à Nina Simone qui chantait sur la scène. C'est une soirée étrange et qui m'est restée et qui traverse mon œuvre, une partie de mon œuvre. Je suis étonné d'ailleurs de n'avoir pas raconté cette histoire dans le premier, comment faire l'amour avec un accent fatigué.
Est-ce que Nina Simone chantait Little Girl Blue ?
Non, elle chantait pas cela, mais j'ai entendu cette chanson bien plus tard que j'ai beaucoup aimé.
Sit there, count your fingers. What can you do? Little girl, you're through. Sit there, curl your little fingers. Unhappy little girl blue.
stops falling on you.
Little Girl Blue, musique de Richard Rodgers par Nina Simone. Nina Simone qui chante pour Danny Laferrière ce matin. Qu'est-ce que vous aviez retenu de son chant, de sa présence ce soir-là lorsque vous débarquez à Montréal?
Ah, c'était pas aussi triste que Little Girl Blue. C'était une femme très, très coquette très au sommet de son art et qui pouvait déconstruire même cet art. Et quand elle chantait, elle pouvait boire et fumer en chantant. Il y avait tout cet aspect jazz que je connaissais pas et que je ne savais pas non plus. Toute cette fausse insouciance que j'ai tant aimée, que j'ai voulu écrire comme elle chantait.
Vous avez voulu écrire comme elle chantait.
Oui.
Comment on
et
fait
pas,
ça
pas la musique elle-même, pas le chant, ses gestes, ce qu'elle fait, cette aisance qu'elle avait pour dire les choses les plus terrifiantes, hein. Les sons, sortir les sons du plus profond, avec aisance, comme un dandy qui va à la mort.
Une forme de désinvolture.
Une forme de désinvolture, mais jamais désinvolte.
Vous la représentez dans votre livre « L'exil vaut le voyage » en reine avec des cheveux blonds. Pourquoi ça ?
Et au fond, non, c'est quelque chose qu'elle portait sur la tête, et comme une reine que j'ai mis à la toute fin blond, mais c'était pas ses cheveux qui étaient blonds, mais j'aurais pu la mettre blond aussi, parce que j'étais blond aussi comme narrateur dans ce livre. Et je trouve, comme dans l'autre livre, Autoportrait de Paris avec chat, les gens s'étonnaient que je sois en blond, alors qu'ils s'étonnent pas qu'il y a un chat qui boit du vin. Et vous savez, c'est très étrange. Et l'obsession de la couleur des cheveux des gens. On est obsédé par ça.
Comment est-ce qu'on fait pour écrire comment on joue du jazz ? Le jazz est quand même un des fils conducteurs de vos écrits. Il est extrêmement présent dans ce livre qui vous a fait connaître, qui a été votre premier grand succès, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Qu'est-ce que vous allez tirer du jazz qui vous inspire ? Est-ce une pulsation ?
Un état d'esprit. Et bien sûr, pour atteindre cet état d'esprit, il faut avoir une pulsation plus rapide que d'ordinaire. Et tout en organisant la phrase, la séquence, pour qu'il puisse comprendre à l'intérieur des zones de pause. Et avec nonchalance. ce qui donne cet esprit et l'impression que qu'on va moins vite qu'en réalité. Et ce dialogue entre les vitesses et ben oui, crée un style. On a l'air comme Miles Davis de ne pas faire les phases secondaires, les phases intermédiaires, de ne pas faire un style de marcheur où l'on met un pas à la suite de l'autre, de sauter les intermédiaires.
C'est une forme de retenue.
C'est une forme, une manière d'être. Une manière d'être, je ne dis pas que les gens qui font différemment, il y a des gros livres, Hugo, et dans Les Misérables, allait un pas après l'autre et a pu faire une œuvre magnifique et pour le très grand public. Et donc Baudelaire, parfois, saute les intermédiaires, y compris aussi.
Est-ce que vous écrivez même avec de la musique dans les oreilles ou est-ce que vous écrivez en silence?
Ma musique qui est dans mon oreille. Le rythme de mes phrases, le choc des idées, l'audace des analyses.
Donc vous écrivez en silence?
Non, c'est un fracas dans ma tête. Je n'appellerai pas ça silence. Surtout pas. Bessie Smith, 1896-1937, Chattanooga, Tennessee, pauvre Bessie. Me voici mollement couché au fond d'un fleuve, Mississippi Floods, doucement ballotté par les champs de cueillette de coton. Le Mississippi a inventé le blues. Chaque note contient une goutte d'eau et une goutte du sang de Bessie.
Qu'est-ce que vous venez de nous lire, là, Daniel?
C'est un extrait de « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer » où je parlais, comme vous disiez tout à l'heure, des musiciens qui m'ont accueilli dans cette chambre au 3670 rue Saint-Denis. D'ailleurs, c'est le titre du chapitre « Une chronique de ma chambre au 3670 rue Saint-Denis » où j'évoquais Bessie Smith.
Ouais. Bessie Smith qui chante là... la conversion au blues, Let Me Convert Your Soul. Elle vous a converti au blues, Bessie Smith?
Elle n'avait pas besoin, de toute façon. De toute façon, je prends Bessie Smith. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'aussi général que le blues. Je crois qu'il y a le sang de Bessie Smith. Et c'est beaucoup mieux qu'un verre de vin.
Il y a un autre musicien de jazz qui a d'ailleurs composé en l'honneur de Bessie Smith.
C'est qui a composé d'abord en honneur d'Haïti.
En honneur d'Haïti, c'est Charles Mingus.
Haitian Fight Song. La chanson ou le chant de combat et d'Haïti.
Qui date du milieu des années 50.
Des années 50. Et plus tard, il a refait ça avec une formation beaucoup plus restreinte et qu'il a appelé 2BS, c'est-à-dire à Bessie Smith. Donc Bessie Smith, Haïti, et ça me va. Thank you.
Haitian Fight Song, le chant de combat haïtien. Charles Mingus à la contrebasse, George Barrow saxophone ténor, Eddie Burt au trombone, Mal Waldron au piano, Willie Jones à la batterie. C'est un enregistrement qui date de 1955 à New York.
À New York, oui, la ville sauvage, la ville debout, comme disait Céline. Et quelqu'un qui a dit une chose de New York qui m'avait plu, il dit « Ici, il n'y a plus de là-bas ». Vous êtes arrivé. Et là, je me rappelle de ce dernier moment quand j'écrivais mon premier roman et qui allait me sortir du trou, c'est-à-dire du trou de l'usine. Et c'est pas une façon littéraire de parler, c'est une façon réelle. Et le chapitre s'appelait « Ma vieille Remington s'envoie en l'air en sifflotant ». Yabon Banania, pour montrer un peu le provocateur qui était moi à l'époque. Flou, je ne vois presque plus rien. Je me suis enfermé depuis 3 jours avec une caisse de bière Molson, 3 bouteilles de vin, 2 boîtes de spaghetti Ronzoni, 5 livres de pommes de terre et 7 maudites Remington. J'ai affiché en bas près de la sonnerie un avertissement un peu plus clair. Ne dérangez pas le grand écrivain, il est en train d'écrire son ultime chef-d'œuvre. Au bout de 3 jours, à taper sans arrêt, les petites lettres m'apparaissent irisées. Les lettres capitales ressemblent plutôt à ces araignées poilues des tropiques. La chambre tangue légèrement sous l'effet Molson. Une épaisse chaleur entre par vagues successives dans mon dos. Les consonnes n'arrêtent pas de forniquer et d'engendrer là sous mes yeux. La vaisselle traîne, la poubelle déborde, j'étouffe, je regarde sans force les cafards vaquer à leurs occupations quotidiennes. La chambre baigne dans un jus ultramarin. Comment ne pas se prendre pour un génie dans de telles conditions? Cette chaleur atroce, j'imagine bien Homère, le vieil Homère tapant sous le soleil méditerranéen son premier bouquin, son Iliade. Borges l'aurait fait de son costume gris anthracite par 88 degrés Fahrenheit. Bukowski, oui. St. John Perse, non. Et cela malgré son origine caribéenne. Il suffit d'avoir une bonne Remington, d'être sans sous, sans éditeur, pour croire que l'ouvrage qu'on est en train d'écrire avec la violence de ses tripes est le chef-d'œuvre qui vous sortira de votre trou.
Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Un grand merci, Daniela Ferrière, d'être venu dans Musique et moi reconstituer la bande-son ce matin de ce roman qui est réédité donc pour ses 35 ans. Merci d'avoir ouvert cette nouvelle saison de Musique et moi sur France Musique. Et comme disait votre ami Ézéchiel à Port-au-Prince, c'était votre émission. À vous.
Oui, merci Ézéchiel d'être présent parmi nous. Est-ce pourquoi j'ai écrit tant de jazz dans ce livre? C'était en pensant à mon ami Ézéchiel, qui ne pensait que Diaz, et dans Diaz, il y a uniquement Miles Davis.
Un grand merci à Alex Billard, à la technique ce matin, Marie Gros à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très bon dimanche sur France Musique, et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.